ça fait quoi de pas rencontrer une star qu'on pensait rencontrer? Et oui, vous vivez ce qu'avec Demi et Yael, on vit à chacune de vos interviews palace. Sonia se rend dans un palace et y retrouve une star, James Cameron, Nathalie Portman, il y a des scones, des petits fours, ça papote, ça s'échange les 06. Oh, when you come to Paris, give a call, I show you Montmartre. Et que je te fais dédicacer des trucs pour les gosses pendant que nous, rien. Là, enfin, avec votre interview bricolée en distanciel, vous ressentez la solitude qui est la nôtre en temps normal. Après les dictons de riche de Dominique Seux en duplex de son KGB.
Au bridge, on n'est pas obligé de faire le mort.
Ce matin, Ryan Gosling en zoom depuis ses toilettes. France Inter, toujours plus près de vos stars préférées, puisque Sonia a visiblement résolu à les traquer jusqu'au water. Prochain objectif, Taylor Swift, ça sera peut-être par fax, hein, mais ça va se faire. Le tout, c'est que les stars soient sur Inter.
Merci Mathieu Noël. Rendez-vous à 16h pour votre émission Zoom Zoom Zen. Et amis auditeurs, passez voir cette chronique sur le site internet d'Inter. Il est 8h01. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Israël, Gaza à la une ce matin, sur place d'abord, avec cette proposition de trêve, lueur d'espoir et la réponse attendue du Hamas. Et en France, avec de faibles mobilisations d'étudiants pro-palestiniens à la Sorbonne après Sciences Po, beaucoup d'écho, mais peu de soutien, notamment parmi les enseignants. À chaque âge, son écran, pas du tout avant 3 ans, des experts rendent leur avis au président de la République aujourd'hui. Ils recommandent l'interdiction des smartphones au moins de 13 ans. On verra ce qu'en pense votre invité Nicolas.
À 8h20 avec Yael Gauze, nous recevons dans le grand entretien de la matinale la ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Nicole Belloubet. Vos questions 01 45 24 7000 et l'application de France Inter.
D'ici là, retour sur le drame du week-end à Châteauroux. Un ado poignardé, son agresseur mis en examen hier soir. Ils avaient 15 ans tous les deux. Ils venaient de se disputer. Plus 0,2% dans l'absolu, ça n'est pas grand-chose, mais quand on parle de croissance, ça veut dire beaucoup, suffisamment en tout cas pour que ce soit une bonne nouvelle. En ce début d'année, le chiffre de l'INSEE vient de tomber. Et puis au lit pour la science, 12 volontaires l'ont testé pendant 2 mois, allongés sans bouger pour simuler l'apesanteur et voir ses effets sur le corps humain. On va les entendre.
France Inter.
Y aura-t-il une trêve à Gaza? Tous les espoirs ont été déçus depuis le mois de novembre, mais cette fois, y aurait-il un alignement des intérêts, ceux d'Israël, ceux du Hamas? Bonjour Michel Paul.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Jérusalem. Michel, une proposition négociée entre l'Égypte et Israël a été soumise au Hamas hier au Caire. Le mouvement palestinien est censé répondre rapidement. De quoi s'agit-il? Et pourquoi cette fois ça pourrait peut-être marcher?
C'est une proposition remarquablement généreuse de la part d'Israël. C'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui l'affirme. Alors, cette fois, il est question d'un cessez-le-feu total dans le cadre d'un plan en 2 étapes dont les détails transpirent et sont encore parfois contradictoires. Dans un premier temps, une trêve humanitaire temporaire, on parle d'environ 6 semaines avec la libération de 33 otages. Jusqu'à présent, les négociateurs israéliens exigeaient la mise en liberté de 40 otages et cela en échange de plus d'un millier de Palestiniens détenus en Israël. Une seconde étape porterait sur la libération de tous les autres otages et aussi l'arrêt des combats. Et c'est précisément, Florence, sur ce point que la négociation achoppe. Le Hamas exige la fin de la guerre, une option qu'Israël rejette totalement. Les familles des otages font pression sur le gouvernement pour ne pas rater cette occasion de sauver leurs proches. De son côté, le Premier ministre israélien Netanyahou est pris entre 2 feux. L'extrême droite qui affirme que cet accord signerait la fin de l'actuel gouvernement et le centriste Benny Gantz qui estime, lui, que sans libération des otages, eh bien la coalition perd toute légitimité.
Michel Paul en direct de Jérusalem où le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est attendu aujourd'hui. Il espère une réponse favorable du Hamas. Le conflit aux États-Unis occupe le devant de la scène politique avec la mobilisation massive d'étudiants pro-palestiniens dans les universités. À Columbia, ceux qui occupent le campus ont commencé à être sanctionnés hier soir avec des suspensions administratives. Alors qu'en France, le mouvement ne prend pas pour l'instant. Quelques dizaines d'étudiants à Sciences Sciences Po la semaine dernière. Une cinquantaine à la Sorbonne hier, délogés par la police, alors qu'ils installaient un campement dans la cour de l'établissement. Dans les deux cas, Alain Gastal, beaucoup de bruit, mais des étudiants peu soutenus, notamment par leurs professeurs.
La mobilisation n'a pas fait tache d'huile à la Sorbonne et la cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens a rapidement été évacuée par la police. Christophe Rameau enseigne l'économie dans cette université. Il est membre des économistes atterrés, classés à gauche et opposés au gouvernement israélien. Il approuve pourtant l'évacuation.
Je considère particulièrement délétère de laisser entendre que tous les sionistes sont des fascistes. C'est le mot d'ordre qui est repris par ceux qui ont planté leur quechua au cours de la Sorbonne. On a affaire à des militants très minoritaires, très radicaux. Ils ont le droit d'avoir leur position, ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils n'ont pas le droit, de mon point de vue, c'est de bloquer un service public.
À Sciences Po, la région Île-de-France a décidé de suspendre son financement, accusant LFI et les islamo-gauchistes de dicter leurs lois, ce que réfute Christian Lequen. Il y enseigne la politique internationale depuis 36 ans.
J'entends Sciences Po, repère du wokisme, repère de l'extrême-gauche, c'est loin de correspondre à la vérité de l'ensemble de cette maison. On est dans un moment qui a été particulièrement violent, mais on est aussi dans un moment où la raison est en train de revenir.
Un accord prévoit l'organisation d'un débat interne à Sciences Po, probablement jeudi.
Et toujours sur le même sujet, Mathilde Panot et Rima Hassan sont convoqués par la police ce mardi pour être entendus dans deux enquêtes pour apologie du terrorisme. L'une d'entre elles concerne le communiqué du groupe insoumis à l'Assemblée le 7 octobre qui qualifiait l'attaque du Hamas d'offensive armée des forces palestiniennes. La France insoumise crie à la censure et appelle à un rassemblement ce matin à proximité du tribunal de Paris.
Il est 8h06, eux se rassembleront demain à Don Rémy la Pucelle.
Qui, comme son nom l'indique, vit naître et grandir Jeanne d'Arc. Marion Maréchal y organise un banquet du 1er mai demain. La tête de liste Reconquête aux élections européennes reprend ainsi une tradition frontiste tombée en désuétude dans le camp lepéniste époque marine. Loin de l'hommage annuel de son père sous la statue parisienne de Jeanne d'Arc, la nièce reprend donc le flambeau, Élodie Forêt.
Dans la mémoire collective, ce défilé du FN en 2015 qui vira au psychodrame familial. Jean-Marie Le Pen, écarté du dispositif par sa fille, monte sur scène sans prévenir. Et appelle Jeanne d'Arc à l'aide. Depuis, le parti lepéniste en quête de normalisation a rompu avec la tradition. Marion Maréchal, qui a sûrement fait ses premiers défilés en poussette, raconte un proche, l'a toujours regretté, comme le regrettent aussi de nombreux électeurs du Front, veut parier Reconquête. Stanislas Rigaud, cadre du parti zémouriste.
Moi, je dis aux électeurs de se demander pourquoi certains partis rendent encore hommage à Jeanne d'Arc et d'autres ne le font plus. En politique, il y a les idées, il y a les programmes et il y a aussi la force du symbole.
Renier Jeanne d'Arc, symbole d'un renoncement plus large, accuse Reconquête qui espère surtout convaincre ses nombreux électeurs zémouristes tentés par un vote RN. Nous n'oublions pas Jeanne d'Arc, rétorque le député Rassemblement National, Laurent Jacobelli.
Nous ne sommes pas un parti passéiste, on s'adapte au temps. Pour autant, on ne renie pas nos valeurs cardinales. Ce n'est pas parce qu'on ne célèbre pas uniquement Jeanne d'Arc le 1er mai que nous l'avons oublié.
Jeanne d'Arc, un symbole que Reconquête, en tout cas, ne veut plus céder, avec désormais tous les ans un banquet à Don Rémy la Pucelle.
Élodie Forêt, puis à quand un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, le Premier ministre y consent désormais ce qu'il refusait jusqu'ici. À tous ceux qui se demandent quand céder à leurs enfants, voici une réponse. Pas de smartphone avant 13 ans. C'est l'une des recommandations d'un rapport qui sera remis aujourd'hui à Emmanuel Macron, rédigé par des experts. Il préconise le bannissement des écrans pour les moins de 3 ans. Le portable sans internet à partir de 11 ans et pas d'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans pour lutter contre l'hyperconnexion des enfants et des ados et sa cascade d'effets délétères. Ils en ont très vite conscience d'ailleurs quand ils se séparent des écrans, comme ces élèves d'une classe de CM2 de Mende en Lozère qui achèvent aujourd'hui une cure détox de 10 jours. Ils font le bilan avec Saïd Makhloufi.
Qui a réussi à relever le défi ?
Moi.
Alors t'as fait quoi à la place des écrans ?
Des gâteaux avec mes parents, des jeux de société.
À la maison, il y a quoi comme écran ?
La télé, l'ordinateur, la tablette et le téléphone.
Ça fait beaucoup ?
Oui.
C'est tous les jours les écrans ?
Oui, 3 heures.
3 heures par jour ?
Ouais, la télé est presque tout le temps allumée.
10 jours sans écran, t'ont apporté quoi ?
Ben je souris plus avec mes parents. À l'école aussi.
Dans cette classe, je remarque quand même que les écrans occupent une grande place dans vos vies.
Entre 3 et 4 heures.
Par jour ?
Oui.
Qui, grâce à cette opération, s'est mis à lire ? beaucoup plus.
Moi, j'aimais bien lire, mais je lisais pas très souvent. Et maintenant, dans la journée, je peux peut-être lire 5 chapitres. Et je comprends mieux les livres.
Tu penses que tu vas le garder, ça, pour après ?
Alors, je dirais pas que j'arrêterai complètement les écrans, mais je pense que je baisserai beaucoup mon temps d'écran.
Et votre objectif, Mylène Pernel, vous êtes leur institutrice, c'est qu'ils tirent bénéfice de ces 10 jours sans écran, un bénéfice que vous constatez déjà.
Oui, oui, il y a un bénéfice en classe, ça je le ressens, au niveau calme, ils sont beaucoup plus calmes, plus posés et beaucoup moins fatigués le matin, vraiment.
Vos 10 jours sans écran se terminent ce soir, les enfants ? Bon, surtout ne foncez pas ce soir sur la télécommande.
Ni sur le téléphone, échange signé Saïd Makhloufi, France Bleu Lozère, et puisque qu'on parle d'alternatives aux écrans. Voici l'école des Odyssées. France Inter lance un concours de création de podcasts. Les élèves de la classe de Mende peuvent y participer puisqu'ils s'adressent au CM2. Les inscriptions sont ouvertes à vie aux enfants, aux enseignants et aux parents. Rendez-vous sur franceinter.fr. Soupçonné d'avoir poignardé le jeune Mathis, 15 ans, samedi à Châteauroux, un adolescent du même âge a donc été mis en examen pour meurtre et écroué hier soir. Sa mère est aussi poursuivie pour avoir frappé la victime. Tous les deux sont de nationalité afghane, en situation régulière. Les deux ados avaient des amis communs et s'étaient retrouvés ensemble un peu plus tôt dans la journée, Jérôme Collin.
L'auteur des coups de couteau et Mathis se connaissaient. Samedi avant l'agression, ils se croisent, les insultes fusent de chaque côté. Une deuxième altercation éclate un peu plus tard. L'agresseur affirme alors avoir reçu un coup de poing de Mathis, occasionnant une incapacité totale de travail évaluée à 3 jours. Pris de colère, il va dans son immeuble, saisit une lame de couteau et revient pour asséner plusieurs coups à Mathis, dont un qui touche la victime en plein cœur. La mère du meurtrier présumé est également impliquée. Selon la procureure de la République de Bourges, cette femme de 37 ans suit son fils au moment des faits et elle assène des gifles à la victime. Elle est mise en examen pour violence volontaire, mais laissée libre sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du département de l'Indre.
Jérôme Collin, France Bleu Berry. Gérard Depardieu jugé pour agression sexuelle. Ce sera son premier procès en la matière. L'acteur comparaîtra au mois d'octobre après la plainte de 2 femmes qui avaient travaillé avec lui sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. C'est la première tendance de l'année, très attendue par le gouvernement et les économistes, surtout en ces temps de déficit public massif. Et c'est une bonne nouvelle, Fabien Cazot, la croissance en France est un poil plus vigoureuse au premier trimestre, en hausse de 0,2%.
Oui, une croissance supérieure à celle enregistrée en fin d'année dernière, 0,2 contre 0,1%. Elle reste modérée, écrit l'INSEE, mais tout de même, il y a quelques signaux qui clignotent en vert. La très observée consommation des ménages en hausse de 0,4% ce début d'année contre 0,2% fin 2023. Et surtout l'investissement des entreprises qui repasse en positif alors qu'il avait subi une assez lourde chute au trimestre précédent. On ressent les effets de ce frémissement d'activité dans de nombreux secteurs, en particulier dans l'agroalimentaire où la production rebondit assez nettement. Des nuages persistent néanmoins dans l'industrie à cause de problèmes d'approvisionnement, note l'INSEE, qui affecte notamment le secteur des transports. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, préfère retenir ce matin qu'au global, la croissance française progresse. Un nouveau signe qui traduit la solidité de notre économie, selon lui, et qui méritera d'être confirmé dans les prochains mois. La croissance restant l'un des principaux paramètres sur lesquels compte le gouvernement pour améliorer l'état de nos finances publiques.
Fabien Cazot, merci. Dans ce contexte, Amazon annonce la création de 2000 emplois en CDI en France d'ici la fin de l'année. Y aurait-il un nettoyage social en Île-de-France à l'approche des Jeux Olympiques ? C'est ce que dénoncent depuis des mois les associations d'aide aux plus démunis au chevet d'une 50aine de familles qui squattent des bureaux désaffectés de Montreuil depuis 2 ans. Leur expulsion est imminente. Elles ont été prévenues par les forces de l'ordre. Ce sont des familles d'origine africaine qui comptent une 15aine d'enfants et de nourrissons et au moins 5 femmes enceintes. Reportage Ajra Mohamed.
Salima berce la petite Tichami dans ses bras. C'est son premier enfant, né il y a 3 mois. Après une grossesse compliquée passée dans ce squat, la jeune Ivoirienne pensait avoir vécu le pire, mais l'idée de dormir à la rue la terrifie encore plus.
C'est compliqué avec l'enfant. Elle est trop petite pour vivre dehors. C'est pas possible du tout. Donc j'ai peur de partir.
La peur aussi pour Jenaba. Sous son pull ample, on devine un ventre rond. Elle est enceinte de 4 mois.
Je me sens du mal parce que c'est pas du tout facile de vivre dehors. Parce que j'ai déjà vécu ça. Surtout nous les femmes, on est très en danger dehors.
Chaque soir, ces femmes passent un appel au 115, en vain, rappelle Paul Allozy, coordinateur à Médecins du Monde.
Aujourd'hui, il faut des critères extrêmement resserrés au 115. Il faut être enceinte de plus de 8 mois. Donc être enceinte de 6 mois, ça ne suffit pas. On peut dormir à la rue quand on est enceinte de plus de 6 mois. Il faut un nourrisson, mais il faut un nourrisson de moins de 3 mois. Parce que s'il a plus de 3 mois, apparemment la rue, c'est convenable. En fait, aujourd'hui, on marche sur la tête. La saturation est telle qu'on crée des critères complètement impossibles à respecter.
La semaine dernière, 58 femmes enceintes et 93 bébés sont restés à la rue en Seine-Saint-Denis, malgré un appel au 115.
Ajra, Mohammad, la 13 fermée aux portes de la capitale. Ça va durer plus longtemps que prévu, jusqu'au 11 mai prochain, dans le sens province-Paris. Pas de date pour le sens inverse. Voici maintenant une expérience qui aurait ravi Philippe Noiret, alias Alexandre le Bienheureux. Resté au lit pendant 2 mois pour la science. Étude clinique commandée par l'Agence spatiale européenne. Elle se déroule en ce moment à Toulouse. 12 volontaires allongés, légèrement inclinés avec la tête en dessous des pieds pour simuler la pesanteur et trouver des façons de réduire ces effets négatifs lors des voyages spatiaux. Alors depuis 10 jours, les volontaires se relèvent les uns après les autres et les tests continuent pour 2 semaines. Rémi Branchetto les a rencontrés.
C'est la séance de sport pour Yannick, 35 ans.
Voilà, va chercher la vitesse.
Après 60 jours alité, il s'est relevé il y a 3 jours quelques problèmes d'équilibre.
Je me suis vraiment mis à la place de ma petite mamie là et on a tous les symptômes là, d'être vieux quoi en fait. Voilà, c'est de l'équilibre, c'est de la force.
Il suit le même protocole qu'un astronaute de retour de mission. Dans la salle voisine, Enzo, lui, pédale allongé. Sur le dos, c'est un vélo spatial, une 60aine d'électrodes fixées sur ses jambes et son crâne. Constance Badali de l'Institut des neurosciences de Cologne surveille l'exercice sur son ordinateur.
Vous pouvez voir avec le cycle des pédales quand le muscle fonctionne ou pas. Ça a l'air d'aller. Enzo a encore des muscles.
C'est rassurant d'un côté.
C'est l'un des 14 protocoles scientifiques de l'étude, son collègue Stéphane Schneider.
On veut voir si après 60 jours d'alitement, les performances musculaires diminuent et si cette diminution est localisée uniquement dans les muscles ou si elle affecte aussi le cerveau.
Pendant l'alitement, certains volontaires ont fait du sport. Enzo a pédalé dans une centrifugeuse pour simuler la gravité.
La centrifugeuse rajoute un effort. Là, je me rends compte vraiment de tout le bénéfice de cette contre-mesure qui m'a gardé quand même bien en forme.
Pour faciliter la vie des astronautes, la solution pourrait être utilisée dans l'espace et comme toutes les études d'alitement, celle-ci permettra aussi de mieux comprendre ses effets sur les malades et les personnes âgées.
Alors, reportage Rémi Brancato, enfin debout, vertical, comme au baby-foot. Mais là, c'est du vrai Bayern Munich, Real Madrid. La première affiche de la demi-finale aller de Ligue des Champions est alléchante ce soir. Les Allemands et les Espagnols comptent 20 titres européens, 14 pour le Real, 6 pour le Bayern. Demain, le PSG est attendu sur la pelouse de Dortmund.
Merci Florence Paracuelos. L'humoriste Hakim Jemili présente son seul en scène intitulé Fatigué à Paris. Il est en tournée dans toute la France. Il sera l'invité de Léa Salamé à 9h20. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Marie-Pierre, la pluie est au rendez-vous dès ce matin.
Eh oui, excepté sur la façade est où le ciel est laiteux à cause des remontées de sable du Sahara et puis sur les régions normandes au Pays Basque, à l'ouest des Pyrénées, sur les autres régions. Donc on a en fait 2 phénomènes. Une perturbation qui arrive d'Irlande et qui arrose ce matin le Finistère sous le vent et on retrouve la perturbation d'hier qui est en train de se redresser et qui arrose toutes les régions comprise entre l'Occitanie en remontant vers les Cévennes à la région parisienne aux Hauts-de-France. A noter qu'il neige sur les Alpes frontalières à 2000 mètres d'altitude, comme d'ailleurs sur l'est des Pyrénées. Sous un mercure contrasté, c'est descendu à 1 petit degré à Moutte dans le Doubs, 2 à Flers dans l'Orne, alors qu'il fait 15 à Calvi et 20 à Menton. Vous avez 12 à Paris, à l'Île-de-Groix, 13 à Strasbourg, comme à Montpellier et Lorient.
Et peu d'évolution cet après-midi.
Oui, si ce n'est, Nicolas, l'instabilité qui va se développer, donner des orages qui vont éclater sur toute la zone pluvieuse d'hier, donc des Hauts-de-France au centre, à la Bourgogne, à la vallée du Rhône. Et le ciel restera laiteux sur les régions de l'Est, avec toujours ces remontées de poussière du Sahara jusqu'à demain. La perturbation arrivée par la Bretagne va arroser toute la Bretagne, sans nuages. Et ça ennuagera le Cotentin au Pays de la Loire. Et le soleil restera dominant, comme ce matin, de l'ouest des Pyrénées en remontant vers la Normandie. Et on sera souvent proche des 20 degrés, excepté vers la Bretagne, vous n'aurez pas plus de 13 à Quimper. Il fera 14 à Arpajon-sur-Cère, 15 à Toulouse, pas plus de 16 à Palavas-les-Flots, mais comptez 18 sur le Cotentin. comme à Nîmes. Vous aurez 22 à Bordeaux, à Besançon, à Antibes ou Bayonne. Et ça va monter jusqu'à 26, Nicolas, Strasbourg, où hier il a fait même 29 degrés en se rappelant qu'avril entrant comme un agneau s'en retourne comme un taureau.
Celui-là, je l'adore. Merci Marie-Pierre. Il est 8h19.
Le 7-10. Listen anywhere. Huawei Duba. Wahdahu min Souria. Nibrinit. Sur France Inter.
Géopolitique. Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Nicolas.
Pierre, vous revenez sur la condamnation à mort d'un rappeur en Iran.
Il s'appelle Tomaj Saleri, ou simplement Tomaj, son nom de rappeur. Il a 33 ans et depuis 2021, il a passé plus de temps en prison qu'en liberté. Il y a quelques jours, un tribunal iranien l'a condamné à mort, une peine inimaginable pour un musicien contestataire non violent. Tomaj est l'un des visages de cette génération qui s'est solidarisé avec Mahsa Amini, la jeune femme morte en 2022 entre les mains de la police des mœurs, pour un voile mal ajusté. Une campagne internationale prend forme pour le sauver de ses bourreaux et demander sa libération. Plusieurs personnalités, dont l'artiste Marjane Satrapi et l'actrice Golshifteh Farahani, ont écrit hier à Emmanuel Macron pour lui demander d'intervenir en faveur du musicien. Elles ont rappelé au président qu'il avait reçu l'an dernier un groupe de femmes iraniennes et avait soutenu leur combat. Mais Tomaj est aussi pris, malgré lui, dans les clivages générés par le conflit israélo-palestinien qui poussent à choisir ses victimes.
Qu'entendez-vous par là, Pierre ?
Notre monde, Nicolas, a des émotions sélectives et génère des concurrences victimaires dérangeantes. Ceux qui se mobilisent pour Tomaj, il y a eu dimanche des rassemblements dans plusieurs pays, dont la France, déplorent de ne pas y voir ceux qui protestent avec véhémence contre les massacres de Gaza. Peut-être parce que l'Iran est en confrontation ouverte avec Israël et par un travers de la pensée, soutenir un adversaire du régime de Téhéran serait jouer le jeu de ceux qui bombardent Gaza. Il y a dans ce Proche et Moyen-Orient, traversé par des passions et des vents de folie, une empathie sélective qui a contaminé le reste du monde. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, qui a fait plus de 1000 morts, dont une majorité de civils, et la riposte israélienne qui a fait des dizaines de milliers de victimes dans la bande de Gaza, là aussi une majorité de civils, il y a une injonction à choisir ses morts. La solidarité est devenue sélective, comme si on ne pouvait pas défendre des principes et regretter toutes les victimes.
Et le rappeur iranien, Pierre, est victime de l'indignation sélective, selon vous ?
Le sort de ce rappeur condamné à mort devrait rassembler toutes les solidarités. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté, né de la mort de Mahsa Amini, avait soulevé soutien et admiration dans une bonne partie du monde. La défense de Tomaj devrait en être le prolongement. Mais les conflits de la région sont passés par là. Le régime iranien tente de surfer sur les mouvements de solidarité avec les Palestiniens pour se refaire une virginité. Et il profite du fait que les campus occidentaux sont focalisés sur Gaza et ignorent les autres causes. Et pourtant, une défense des droits humains et tout simplement de valeurs humanistes devrait permettre de se dire solidaire dans le même souffle et sans réserve des Palestiniens qui subissent un châtiment collectif insupportable dans la bande de Gaza, des otages israéliens toujours retenus par le Hamas, ce qui constitue là aussi un crime de guerre, et d'un rappeur iranien épris de liberté qui risque d'être exécuté par un régime impitoyable. Force est de constater que c'est hélas impossible en 2024.
Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Nicole Belloubet.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce mardi, je vous raconte le combat du groupe Nakam. Une cinquantaine de femmes et d'hommes juifs d'Europe de l'Est, rongés par l'envie de se venger de la Shoah.
Affaire sensible, tous les jours à 15h sur Inter.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
8h23.
France Inter. Nicolas Demorand.
Le 7-10.
Et avec Yaël Gauze, nous recevons ce matin la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse dans le grand entretien du 7-10. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Nicole Belloubet, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. On va parler dans un instant du sursaut d'autorité voulu par Gabriel Attal pour lutter contre la délinquance des mineurs. Sujet qui passe évidemment aussi par l'école. On évoquera la question des jeunes et des écrans, la revalorisation du métier d'enseignant. Mais d'abord, quelques mots sur ces blocages qui ont eu lieu dans certaines universités. Hier après-midi, la police est intervenue pour évacuer une cinquantaine de militants de la cause palestinienne qui avaient installé leur tente dans la cour de la Sorbonne à Paris. Vendredi, c'est Sciences Po Paris qui était bloqué. Quel regard portez-vous pour commencer sur ces mobilisations-là?
Moi, je comprends que, pour reprendre l'expression de Pierre Aski, les vents de folie qui soufflent au Proche et au Moyen-Orient suscitent des débats, suscitent des interrogations, et c'est le lieu même de l'université que de débattre. Ce que je ne comprends pas, et je trouve ce qui est inacceptable, c'est que ces débats se transforment en blocage, en intimidation, et qu'il y ait d'ailleurs des exploitations politiques, politiciennes de ces situations. Et ça, je trouve que c'est difficilement acceptable.
Pour vous, ces mobilisations, c'est l'activisme d'une minorité agissante et dangereuse, pour reprendre les mots de Gabriel Attal, ou simplement la liberté de s'engager, de manifester, comme on l'a déjà vu par le passé, pour par exemple.
Je pense que beaucoup d'étudiants ont envie de débattre de ces situations et de débattre très librement, et c'est le lieu même de l'université. En revanche, on voit bien qu'une partie de ces mobilisations relève d'exploitation politique.
Soyez plus précis, vous pensez à qui?
Non,
Rima Hassan, aux Insoumis, à Jean-Luc Mélenchon.
Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon tenir les propos qu'il a tenus, je pense qu'il y a une instrumentalisation et que c'est difficilement audible au sein de l'université.
Vous redoutez que ces mouvements prennent de l'ampleur ou vous estimez que c'est marginal ?
À ce stade, il me semble que c'est marginal. Je pense qu'il y a la nécessité de débattre, je le redis ici, mais il me semble que nous pouvons, par le débat, interrompre ces situations.
On a appris hier soir que la présidente de région Île-de-France, Valérie Pécresse, voulait aller suspendre les financements de Sciences Po tant que la sécurité, dit-elle, ne serait pas revenue dans l'établissement. Est-ce que vous partagez ce type de mesure ? Suspension des financements publics à Sciences Po ?
Je pense que la direction l'a dit, d'ailleurs, je l'ai lu ce matin, sous les mots du directeur actuel de Sciences Po, c'est évidemment regrettable pour l'institution. Il me semble qu'il ne faut pas surréagir immédiatement à une telle situation.
Elle surréagit, Valérie Pécresse ?
Je pense qu'il est nécessaire de laisser les événements et la direction agir comme elle l'a proposé dans la semaine qui vient, et ensuite les mesures qui devront être prises pourront l'être.
Venons-en au plan contre la violence des mineurs, priorité du Premier ministre Gabriel Attal dans son printemps des urgences. Des consultations avec les groupes politiques ont démarré hier soir. Cette phase doit durer 2 mois. Qu'en attendez-vous comme ministre de l'Éducation nationale ?
Moi, si vous voulez, comme ministre de l'Éducation nationale, je suis aussi ministre de la Jeunesse, comme ministre de l'Éducation nationale, ce que je dis évidemment, c'est que l'école, c'est le réceptacle de ces violences, et c'est aussi l'antidote à ces violences. C'est-à-dire que la mission première de l'école, c'est évidemment l'éducation, et l'éducation, ça passe par le respect, parce que on ne peut pas, évidemment, développer l'apprentissage des savoirs, on ne peut pas développer le savoir-être social s'il n'y a pas un minimum de règles et que ces règles soient respectées. Donc, l'autorité, pour moi, est un élément du respect des règles. Et de ce point de vue-là, évidemment, tout ce qui est proposé mérite d'être étudié.
Il y a beaucoup de propositions sur la table. Internat pour les élèves ayant de mauvaises fréquentations, le retrait de points au brevet et au bac en cas de perturbation grave dans l'établissement scolaire, les travaux d'intérêt éducatif, qui seraient l'équivalent des travaux d'intérêt général pour les mineurs de moins de 16 ans. Comment est-ce que vous décrivez la philosophie de toutes ces mesures ? On serre la vis ?
Tout ne relève pas du ministère de l'Éducation à strictement parler, n'est-ce pas ?
La preuve, là, c'est l'intérieur, c'est la justice.
Absolument.
Et c'est bon.
Donc, oui, mais pour ce qui me concerne, moi, je le redis ici. La priorité, pour moi, c'est de faire réussir tous les élèves. Pour cela, il faut un cadre, il faut des règles, il faut que ces règles soient respectées. Donc, il y a des éléments qui seront pris en compte. Je pense, par exemple, dans le premier degré, il faut que nous ayons un mécanisme de punition qui existe déjà, qui soit harmonisé, qui soit clair. musculaire. Il faut également que...
Conseil de discipline, c'est ça que vous voulez dire ?
Non, pas du tout. Non. J'ai dit harmonisation des punitions. C'est-à-dire que tous les parents sachent que, voilà, face à un fait, et tout fait mérite réponse, eh bien, les punitions seront les suivantes. C'est une harmonisation qui, aujourd'hui, n'existe pas. Chaque école gère... les choses comme elle l'imagine. Donc, je pense qu'il y a des éléments sur lesquels nous devons progresser pour que les règles soient claires pour tous. On a même envisagé, et c'est d'ailleurs, je crois, une proposition du Premier ministre, que les parents puissent signer une charte ou un contrat lorsque leur enfant s'inscrit à l'école. Ça me semble relever du bon sens. Donc, il y a des éléments qui méritent vraiment d'être pris en compte, d'être traités, et ce sera l'objet de la concertation.
Ces réflexions sur l'autorité, vous l'avez dit, sont au carrefour de différents ministères. Le gouvernement se dit prêt à débattre de la levée de l'excuse de minorité, c'est-à-dire ce principe qui fait qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. Y êtes-vous favorable, vous qui avez été ministre de la Justice, il n'y a pas si longtemps quand même, avant d'être ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Vous avez quand même...
Je ne veux pas du tout empiéter sur le terrain mon collègue garde des Sceaux.
Ça vous concerne aussi.
Je dois dire que lorsque j'étais garde des Sceaux, c'est un... j'ai porté vraiment la dernière réforme du code de justice pénale des mineurs, avec, me semble-t-il, beaucoup d'évolutions positives. Je m'étais opposée à cela. C'était déjà une question qui était arrivée sur le débat, et je m'y étais opposée. Je considère en effet que le mineur, c'est toujours un être en devenir, et que donc l'éducation, c'est d'ailleurs la philosophie de l'ordonnance de 45, l'éducation doit primer. Je ne suis pas naïve, c'est-à-dire que je me rends bien compte qu'il faut réagir de manière systématique dès lors qu'il y a un fait de violence. Pour autant, en tant qu'ancienne garde des Sceaux, je ne reviens pas sur les positions que j'avais alors défendues.
Donc vous ne partagez pas cette idée de Gabriel Attal d'ouvrir le débat sur la levée de l'excuse de minorité ?
Non, le Premier ministre a raison d'ouvrir le débat. Je vous donne ma position.
D'accord. Sur le cas de la jeune Samara, 13 ans, agressée sauvagement par un groupe d'adolescents le 2 avril devant son collège de Montpellier, 5 mineurs sont mis en examen pour tentative d'homicide. La mère de Samara avait accusé l'équipe pédagogique de ne pas avoir pris assez de mesures pour protéger sa fille. Et les profs, indignés à l'époque du collège Arthur Rimbaud, avaient refusé de donner cours le jour de la rentrée. Vous aviez déclaré que votre main ne tremblerait pas. Que dit l'enquête administrative que vous avez diligentée ?
Bien, écoutez, l'enquête administrative dit deux choses, me semble-t-il, très importantes. Elle dit d'une part que ce collège, le collège Arthur Rimbaud, est très engagé dans la lutte contre le harcèlement et que sur le cas particulier de la jeune Samara, qui est un drame pour nous tous, il faut quand même le dire, et j'ai eu l'occasion d'être en contact à plusieurs reprises avec sa maman, sur ce drame-là, le collège, au vu des éléments qui étaient portés à sa connaissance, a fait tout ce qui était en sa possibilité de faire, c'est-à-dire qu'il y a eu un suivi de l'élève, elle a été entendue plusieurs fois, je veux dire par les équipes éducatives avant le drame qui s'est produit, et au vu des éléments qui étaient portés à leur connaissance, les équipes éducatives ont fait ce qu'elles pouvaient faire.
Pas de négligence du collège ?
Je n'ai pas relevé, et l'enquête administrative n'a pas relevé de négligence. Mais en revanche, ce qui clairement a été relevé, et d'ailleurs juste simplement pour dire aussi, il est très important que les chefs d'établissement des collèges où sont scolarisés les enfants agresseurs prennent les mesures disciplinaires d'exclusion sans doute qui s'imposent. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment, il faut être très ferme vis-à-vis des élèves qui sont considérés comme agresseurs. Le deuxième point qui est relevé par l'enquête administrative, bien que nous n'ayons pas pu avoir accès au téléphone portable des élèves parce que ça relève de l'autorité judiciaire, le deuxième point qui est à relever, c'est évidemment le fait que les réseaux sociaux et notamment ces fameux comptes Ficha sont sans doute à l'origine de ce qui s'est passé avec des images qui ont circulé, qui étaient considérées comme porteur de mépris, de haine, etc.
Y a-t-il une dimension religieuse dans ces actes dont Samara a été victime ? L'enquête
Ce que dit l'enquête administrative, que je rendrai publique d'ailleurs, en tout cas en enlevant les données personnelles qui n'ont pas à être publiques, mais ce que dit l'enquête, c'est qu'il y a certainement un contexte communautaire, mais que celui-ci s'est sans doute trouvé accentué par les images qui ont été véhiculées sur ce compte Ficha. Mmh.
Selon son avocat, la mère de Samara souhaite maintenant scolariser sa fille dans le privé. Est-ce que ce n'est pas un échec pour l'école publique ?
Je considère que la situation est tellement particulière qu'on ne peut pas parler d'échec. Nous le savons, il y a plusieurs modalités de scolarisation qui ont d'ailleurs été proposées à Samara, c'est-à-dire à la fois l'instruction en famille, je crois qu'elle est d'ailleurs actuellement toujours dans sa famille, ou bien l'instruction en établissement, c'est le choix de la mère que je respecte en l'occurrence.
Nicole Belloubet pour couper...
Mais d'autres collèges publics pouvaient l'accueillir et nous l'avons proposé bien sûr.
Nicole Belloubet pour couper un jeune de ses mauvaises fréquentations, Gabriel Attal propose...
aux parents en hébergement en internat, soit pendant les vacances scolaires, soit toute l'année. Sur le fond, est-ce que l'accord des parents ne va pas limiter la portée d'une telle mesure, puisqu'il faut l'accord des parents, évidemment, pour envoyer un enfant en internat?
Alors, moi, j'étais hier à Toulouse, et justement, je suis allée voir des internats. Et l'internat, au fond, c'est fait, je le redis ici, pour assurer la réussite éducative de tous les jeunes. Et donc, nos internats permettent d'accueillir des jeunes qui sont soit distants géographiquement, soit qui ont des difficultés sociales, et avec le reste à charge zéro que nous mettons en place, c'est un élément important, soit pour prendre en charge des jeunes qui veulent se couper de leur environnement. Mais dans cette triple dimension, éloignement géographique, éloignement social, éloignement comportemental, l'objectif, c'est toujours celui de la réussite éducative, et c'est ce que nous voulons faire avec les internats dont j'ai la responsabilité, qui sont les internats pendant le temps scolaire. L'internat que j'appelle Dupont-Moretti pour simplifier, a une autre visée dans laquelle je suis moins partie prenante, je suis moins acteur de ce schéma-là.
Mmh. On va passer au standard d'Inter où nous attendent beaucoup d'auditeurs. Guylaine, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, je m'interroge et je vous interroge sur la place grandissante accordée aux écrans à l'école, hein, sous forme de tablette, par exemple. Ça me semble paradoxal, alors que le gouvernement et bien d'autres souhaitent réfléchir à l'exposition des jeunes aux écrans. Alors, on pourrait me répondre qu'il s'agit précisément de faire une éducation à l'utilisation des écrans. En réalité, ça va bien au-delà. Hein. C'est considéré comme un outil pédagogique. Et à mes yeux, l'école est justement le lieu par excellence où on devrait privilégier le livre. Voilà, j'aimerais savoir l'opinion de notre ministre.
Merci infiniment pour cette question. Cécile, sur l'application d'Inter, va dans le même sens. Comment mieux réguler les écrans quand l'éducation nationale a distribué, entre guillemets, à grande échelle, des tablettes dès le collège, sans aucune ou si peu de formation et d'accompagnement?
Et j'ajoute que la Suède est revenue en arrière et que les manuels scolaires ont fait leur retour dans les écoles suédoises.
Nicole Belloubet.
Je n'oppose pas le livre au numérique. D'ailleurs, cet été, nous lançons une grande opération, j'espère avoir le concours de France Inter, qui s'appellera « Cet été, je lis », où nous donnons des livres aux élèves de CM2. Pour autant, moi, je suis très claire sur le fait qu'il faille distinguer, de mon point de vue, et nous verrons ce que dit la commission écran qui rendra son rapport cet après-midi, il faut distinguer, selon moi, l'usage du téléphone, des réseaux sociaux, qui doit être, à mon avis, totalement réglementé, en tout cas pour les enfants, de l'usage du numérique pédagogique. Et pour moi, un outil numérique accompagné, c'est-à-dire avec l'enseignant à proximité, qui mesure les apprentissages et les progrès des apprentissages. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui doit être rejeté, parce que il est absurde de penser que notre société future se fera sans numérique. Et si l'école ne travaille pas à l'utilisation du numérique avec les enfants, alors je crois que notre école de demain est totalement ratée.
Alors ce rapport, vous en parliez à 16h, remis à l'Elysée, commandé en janvier, une dizaine d'experts dedans. Les conclusions sont claires, il faudrait, selon les experts qui remettent leur document à Emmanuel Macron, interdire l'usage des écrans au moins de 3 ans et interdire les téléphones portables au moins de 11 ans. Le rapport pointe des conséquences sur la santé, le développement des enfants, enjeu civilisationnel, dit le rapport. Comment on fait pour réguler ça? Est-ce que la loi est compatible avec ce qui se passe dans l'enceinte familiale, dans le privé?
Alors c'est évidemment très difficile. Moi, je suis très favorable à ces mesures-là, qui n'ont pas encore été présentées, je le dis, mais enfin, j'y suis très favorable. Et j'ai moi-même parlé, il y a quelques temps, d'une pause numérique au collège, en disant vraiment qu'il fallait éviter à tout prix la circulation des téléphones portables dans les collèges.
On les interdit à l'entrée? Comment on fait?
Mon idée, à vérifier pour la mise en œuvre, on peut l'expérimenter. Il y a une loi qui interdit cela. Mais l'idée, c'est évidemment que les portables puissent être déposés à l'entrée et qu'ils ne circulent pas dans les collèges, puisque c'est ça qui s'est passé sur l'affaire Samara.
Ça va se faire? C'est matériellement possible?
Je pense que c'est matériellement possible. Je voudrais vraiment que nous puissions faire cela. Après, c'est une autre question que celle que vous posez sur l'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux et l'autorisation parentale entre 13 et 15 ans. On a des idées sur la manière de faire. Nous disposons à l'Éducation nationale d'un portail qui s'appelle EduConnect. Il faut mesurer sur la question de savoir si cela peut être utilisé ou s'il y a des difficultés en matière de données partagées. Ça, c'est un point qui mérite d'être travaillé.
Retour au standard. Bertrand nous appelle de Biarritz. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonjour. J'avais une question pour Madame Belloubet. puisqu'on entend, vous venez de le dire, il faut harmoniser des punitions, un versant très répressif, des couvre-feux dans les tomes par M. Darmanin, interdire le téléphone. En fait, je me demandais simplement où on était, versant éducatif et accompagnement éducatif, que ce soit des parents, des jeunes enfants ou des adolescents. On a un métier qui s'appelle EducSP, Éduc de rue, qui ne fait que chuter. Il en manque énormément en France, il y en a 65 000. Et c'est un métier qui devrait pouvoir répondre à de nombreuses questions.
Vous êtes enseignant ?
Non, je suis spécialisé.
Merci en tout cas pour cette intervention, Bertrand. Nicole Belloubet vous répond.
Moi, je réponds très clairement. L'éducation nationale, sa première mission, c'est d'éduquer tous nos enfants. Et c'est les apprentissages. Et je le dis franchement parce que c'est ce à quoi je crois profondément. Et c'est d'ailleurs ce que j'aimerais porter. C'est vraiment ne laisser personne au bord du chemin. Et c'est travailler sur cet aspect éducatif pour tous. Donc, cela étant dit, il me semble que les apprentissages ne se réalisent que dans un climat de sérénité. Sinon, on n'arrive pas à apprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de différents types d'enseignants. Monsieur parlait à l'instant des éducateurs spécialisés. Il parlait, en tout cas en filigrane, des psychologues de l'éducation nationale, des infirmiers. Il est infirmier. Nous avons besoin de tous ces personnels. Et oui, je le reconnais, nous avons une faiblesse. Nous n'avons pas assez de médecins scolaires, pas assez de psychologues, pas assez d'infirmiers. Et nous devons faire un effort important de ce point de vue-là.
Comment vous allez faire, puisque on a vu, il y a un débat budgétaire hier à l'Assemblée. Comment vous allez faire, votre ministère doit déjà concéder 700 millions d'euros d'économies sur les 20 milliards, enfin 10 plus 10 de 2024. Il y a une pression budgétaire aussi pour vous ?
Bien sûr, il y a une pression budgétaire. Bon, si vous voulez, en tant que membre du gouvernement, il est normal que je participe à cet effort budgétaire. Nous avons veillé à ce qu'aucun poste ne soit supprimé. C'est évidemment très important. Et par ailleurs, nous essayons de gérer mieux le potentiel dont nous disposons, et c'est le cas notamment avec les évolutions sur la formation des enseignants.
Mais pour être clair, vous n'êtes plus sanctuarisé.
Je ne sais pas si on l'a jamais été. En tout cas, c'est une priorité, l'éducation, clairement, et je me bats pour cela, je me bats pour avoir des emplois, c'est évidemment tout à fait essentiel, mais je le redis ici, au fond, nous devons mieux recruter. Parce que c'est ça qui nous permet d'avoir des profs devant les élèves. Mieux recruter, c'est la formation des enseignants, avec, vous le savez, l'effort qui va être fait, notamment un effort financier, puisque après le concours, les élèves fonctionnaires seront rémunérés.
Avez-vous trouvé les 2330 postes nécessaires pour les groupes de niveau ?
Oui, je les ai. Nous cherchons les hommes et les femmes qui s'assieront sur ces chaises.
Vous les cherchez encore ? Vous n'avez pas les gens, c'est ça ?
J'ai le budget, nous cherchons les gens, pas sur ces postes-là spécialement. Nous avons besoin de recruter, je le dis ici, parce que nous n'avons pas assez de fonctionnaires titulaires, ce qui est notre objectif ultime. Nous avons besoin de recruter des personnels contractuels. Nous sommes en cours de recrutement pour les former avant la prise de fonction.
La formation des enseignants, vous en parliez, avec un nouveau type de master pour les futurs profs, des élèves fonctionnaires payés 900 euros en master 1. L'Élysée avait parlé de 1400.
Oui, ça n'est pas
tranché. Pourquoi finalement 900 ?
Ça n'est pas tout à fait tranché, cette question-là. Donc, nos étudiants qui auront le concours au niveau de la licence seront rémunérés dans les deux années qui suivent, années au cours desquelles ils seront
à la fois
en stage devant les élèves et en même temps en poursuite d'études de master. Les secondes années seront rémunérées 1 800 euros. Oui. Sur les premières années, il y a encore un débat entre 900 et 1400.
Et est-ce que
mais je rappelle que l'année dernière, il n'avait pas de rémunération.
C'est pas la même chose pour motiver les futurs enseignants.
Non, mais je pense que la carrière telle qu'elle se dessine, avec un parcours d'excellence, sera un atout considérable.
On retourne au standard. Bonjour Eugénie.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Merci. Madame la ministre, il manque plus de 200 000 AESH en France, et donc 200 000 enfants et 200 000 familles qui sont impactées par ce problème. J'aimerais savoir quand est-ce que le gouvernement et vos services mettront les moyens suffisants pour payer correctement ces AESH, les recruter, les former et arrêter le scandale qui en découle, c'est-à-dire la bataille sur le terrain des parents à qui criera le plus fort au pial pour permettre d'avoir un AESH pour l'inclusion de son enfant en situation de handicap.
Merci.
On rappelle AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap.
Absolument.
Nicole Belloubet, réponse.
Bien, je voudrais juste dire que je comprends parfaitement la douleur des familles qui se trouvent dans cette situation-là. L'école, aujourd'hui, sur la volonté du président de la République, est devenue ce qu'on appelle l'école pour tous, c'est-à-dire une école qui accueille tous les élèves. Nous avons actuellement plus de 400 000 élèves qui sont porteurs de handicap, qui sont accueillis dans les écoles, et c'est tout à fait naturel. Nous avons créé, autour de cette nouvelle politique publique, un nombre de postes extrêmement importants, notamment en recrutant des AESH, et nous avons plus de 150 000 personnes qui actuellement jouent ces fonctions d'AESH. À la rentrée prochaine, 3 000 AESH supplémentaires. Mais il est vrai, je le reconnais ici, que nous n'arrivons pas encore suffisamment à accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des élèves porteurs de handicap. Il faut que je travaille avec ma collègue Catherine Vautrin, parce que c'est au fond un mécanisme santé-éducation qui doit travailler ensemble pour accueillir ces élèves dans de bonnes conditions.
Les élections européennes, dans 41 jours, vous étiez ministre, mais aussi militante, en meeting hier avec Valérie Ayé à Toulouse.
Absolument.
Liste largement devancée par celle du RN et aujourd'hui concurrencée par celle de Raphaël Glucksmann. Pourquoi la campagne ne prend pas chez vous ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je crois qu'il n'y a pas que chez moi. Je crois que la première des choses, chez moi que chez nous, je crois qu'il n'y a pas que, si vous voulez, la première des choses, c'est d'inciter les Français à voter. Parce que l'Europe, c'est notre quotidien. On a beaucoup de mal à faire comprendre ça. Mais l'Europe, c'est notre quotidien. De tout point de vue, qu'il s'agisse d'éducation, c'est Erasmus, qu'il s'agisse de justice, on voit bien qu'une décision qui est aujourd'hui prise par le tribunal de Toulouse, elle est immédiatement applicable en Allemagne.
Mais votre liste a-t-elle encore le monopole de l'Europe?
Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument aller voter. Ensuite, la liste portée par Valérie Ayé, qui est une candidate très tonique et très sérieuse par le rôle qu'elle a joué et qu'elle joue encore au sein du Parlement européen, dit à quel point l'Europe, c'est vraiment une bataille au quotidien pour essayer de faire avancer les dossiers. Prenez le pacte asile et immigration. On peut dire qu'il n'est pas suffisant, on peut dire qu'il ne répond pas à tous les objectifs, mais il existe et il va permettre de faire évoluer les choses. Ce que je remarque, c'est que Valérie Ayé l'a porté, c'est que M. Glucksmann ne l'a pas adopté. Et donc, c'est évidemment un point majeur de différenciation dans l'attitude que nous avons au sein des instances européennes. Et c'est la raison pour laquelle je pense que notre liste doit être privilégiée.
Eh bien, c'est...
Oui, encore une question. Gabriel Attal a longtemps hésité à débattre directement avec Jordan Bardella. Depuis hier, on sait qu'il est prêt à le faire. Étiez-vous de ceux qui l'incitaient à entrer dans ce duel-là ? Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que ça vous enferme dans le rôle de challenger ?
Non, je pense qu'on a toujours intérêt à débattre. Et que, franchement, montrer que M. Bardella a des positions qui soit ne sont pas réalistes, soit qui sont parfois contradictoires, eh bien, le rôle de Gabriel Attal, de ce point de vue-là, est tout à fait essentiel. Et je suis sûre, je connais le talent du Premier ministre et évidemment il n'aura aucun mal à montrer à quel point le travail qui est conduit par les élus Renew au niveau européen est essentiel.
Merci Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, d'avoir été au micro de France Inter.
Merci
ce matin.
À
suivre la revue de presse avec Loda Skolovic et puis on retrouve Léa Salamé jusqu'à 10h.
Zadig et Arte s'associent le temps d'un hors-série pour réfléchir à l'Europe telle qu'on la vit et telle qu'on la rêve. Récits, enquêtes et reportages signés par des intellectuels, des artistes et de grandes plumes européennes. Lola Lafont, Eri De Luca, Wim Wenders, Amélie Nothomb et bien d'autres. Une revue exceptionnelle déjà disponible en kiosque et en librairie. Et ce soir, sur Arte, une grande émission spéciale élection européenne dès 20h55 pour comprendre les enjeux au cœur de la campagne. Arte.tv. La plateforme libre.
LCL présente Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle Neuf, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
La revue de presse, Claude Skolovic.
France Inter. Le 7-10.
Et on parle de gris, Claude, la couleur.
qui est la couleur, le gris de la robe de la liberté. Un gris argenté, subtil, rehaussé de quelques touches jaunes, assurant la vibration du vêtement, écrit le quotidien de l'art, qui avec le Parisien nous dit la bonne nouvelle. La liberté guidant le peuple, cette grande femme brandissant le drapeau, menant les insurgés que Eugène Delacroix avait peinte après l'émeute révolutionnaire du 28 juillet 1830, deuxième des trois glorieuses qui renversèrent Charles X. Cette liberté-là, oui, qui est la France, me dit le Parisien, revient au Louvre qu'elle avait quitté il y a 7 mois pour être restaurée. C'est une révélation. Donc elle était grise, la robe que les vernis successifs avaient rendue jaune, et ce n'est pas le seul changement. Et le Parisien s'extasie de la luminosité des couloirs, des couleurs de l'étendard, du ciel, de la poussière qui vole, de l'air même qui semble circuler en coulure. Les nuages sont plus blancs, plus jaunes, plus roses. Même la qualité de la poussière sur les barricades est plus nette, et apparaissent aussi, sauvées du vernis, une chaussure et des taches de sang. Ce sont deux restauratrices, Bénédicte Trémolière et Laurence Mugnot, qui ont rendu à lui-même ce tableau qui avait fait peur à sa création, tant il était un appel à l'insurrection. Elles ont découvert que dans une première version, Delacroix avait imaginé sa liberté, non pas de profil, mais de trois quarts, regardant un personnage à terre. Delacroix peignait vite, sa toile n'était pas de bonne qualité, il avait habité avec frénésie. Comment vais-je attendre jeudi, jour du retour officiel au Louvre, pour contempler ma liberté ? Pendant ce temps, les Échos nous racontent ce qui fut au siècle dernier la plus importante collection au monde d'art contemporain. Elle appartenait à Renault, alors Régie Nationale, qui à la fin des années 60, début des années 70, s'était lancée dans le mécénat d'entreprise avant d'inviter les artistes à l'usine. Alors défilent dans l'article les noms de Dubuffet, de Vasarely, qui dessina le fameux losange, de Hérault, de Niki de Saint-Phalle, d'Alechinsky, de Harman, qui disait « On m'a lâché dans mon magasin de couleurs ». Mais la prospérité ne fut pas éternelle, les crises eut raison de la munificence, il y eut des doutes, des procès, des scandales, mais en juin viendra chez Christie's une vente aux enchères qui va financer, dit Renault, de nouveaux mécénats. L'art, la voiture, c'est une éternité.
On parle aussi de Roger Federer.
Qui est, Léa, et reste, fut et reste une œuvre d'art en un tennisman incarné, mais qu'en 2013, le 116e joueur mondial avait battu à Wimbledon. Eh bien, on le retrouve, ce joueur, sur le site de l'équipe, dans un film saisissant. Il raconte sa fameuse victoire, mais pas seulement cela. Sergueï Stakhovski, c'est son nom, sa carrière achevée en 2022, s'est engagé pour défendre son pays, l'Ukraine, et donc il raconte aussi bien la guerre que le sport, et c'est en uniforme que vous le voyez, rencontrant de jeunes sportifs de son pays, leur promettant, et je le crois, qu'ils auront une vie chouette. L'un d'eux, un jeune garçon, veut s'en aller battre Djokovic. Tiens, dans le télégramme, je lis le destin en construction d'un Brestois, danseur étoile de 13 ans, Camille Cariou, qui a découvert l'art, la danse aux États-Unis à Portland, où sa famille des Bretons voyageurs s'était installée. Il va quitter les siens pour une académie à Monaco. Il est, dans nos pays en paix, des exils chaleureux. Federer encore, vous allez le retrouver dans Télérama, accessible un jour avant le 1er mai. Federer, qui est le leurre et le titre du livre d'un anglais épatant, Geoff Tyer, Les derniers jours de Roger Federer et autres manières de finir. Mais ce bouquin ne parle pas tant du sublime Roger que de Tyer lui-même, qui se découvrant sexagénaire, âge souffre, se raconte vieux et cherche sur lui-même et sur les champions artistes, Andy Murray, Boris Becker, Bob Dylan, Keith Jarrett, David Lynn, Beethoven, les signes du destin. Lui-même, d'ailleurs, ne joue plus au football que lors de rêves où il donne des coups de pied dans le lit. Le tennis le laisse dans un état désespérant de fatigue. Quant à la séduction, mon Dieu. D'ailleurs, qui me renvoie donc à ma date de naissance, 1962, a écrit ce livre vite, décidé en 2020, rendu quand Federer prenait sa retraite l'année suivante. Il compte autant de mots qu'il y a de secondes dans une journée, soit 86 400. Il a compté. À côté de cela, sur le site de Télérama, vous pouvez lire les mots très beaux d'un cinéaste, Klaus Drexler, qui a appelé « les vieux » pour rendre noblesse à ce mot, son documentaire sorti il y a déjà 6 jours sur des plus anciens que nous. Ces vieux, à les lire et voir, sont un voyage dans la diversité de la France, on n'oublie rien. Ensuite, vous lirez dans Sud-Ouest Joël, au cœur tendre, qui les dimanche soir à sa fenêtre attend que revienne Elena, partie pour le week-end dans sa famille et qui est son rayon de soleil. Elena, qu'il a connue il y a 2 ans, elle en avait 23, et cherchait un logement pas cher pour finir ses études. Lui, à 82 ans, avait de la place et surtout sombrait dans le silence depuis que son amour, son épouse, Madeleine, s'était avancée dans les limbes d'Alzheimer. Une vie qui rétrécit comme la marée se retire, écrit Sud-Ouest. Il sombrait avec elle, il parlait seul. Joël a été sauvé du silence par une association, Vivre Avec, qui promeut la cohabitation intergénérationnelle solidaire et lui a donc amené Elena, qui lui a rendu le café partagé et le rire. Entend-elle Madeleine dans son silence que son homme qui n'a jamais voulu qu'elle s'en aille et la nourrit encore chaque jour, que son Joël a retrouvé cela ? C'est un des articles que propose Sud-Ouest sur son site et chaque jour en version papier sur des bonheurs de vieillesse. Je les vois comme un futur possible.
Et on parle enfin, Claude, de travail.
Que Brigitte Macron et Bernard Arnault, lui milliardaire, elle ancienne prof et épouse d'eux, veulent rendre à ceux qui sont tombés. Et hier ensemble, Lige dans l'Union, ils ont inauguré à 5 leur 5e établissement nommé Live, dédié aux sans-emploi de plus de 25 ans. Je lis que Brigitte Macron, dans l'après-midi, a donné un cours sur le roman au 19e siècle et lit aussi que Bernard Arnault a rappelé que le travail préserve de l'ennui, de l'oisiveté, du vice et du besoin. Dans Nord Littoral, même but, autre ambiance, je lis la Cité de l'emploi de Calais où des artistes rendent la confiance à ceux qui l'ont perdu par la danse et par la sophrologie. Dans la montagne et autres journaux du centre de la France, on s'interroge sur la notion de salaire décent. Et dans une carte, vous verrez qu'il faut pour vivre dignement 2 080 € par mois à Paris, mais un peu plus de 1 440 € dans la Creuse. Dans les échos encore, j'en termine, on me dit les gentillesses que déploient des PME pour garder leurs salariés. Je lis un potager chez un auditeur de logiciels de ressources humaines toulousain et le droit au chien au boulot chez un loueur d'espace de travail marseillais. J'apprends aussi une expression, happy washing, ou comment faire passer dans le bonheur la dignité que l'on n'a pas donnée.
Merci Claude pour cette revue de presse. Mathilde Serrel, à vous. Un monde nouveau ce matin, un monde où le télétravail est devenu la meilleure application de rencontre.
Un coup de déprime ce mardi. Je vous conseille d'envoyer un emoji personnalisé à Jean-Michel sur votre canal de discussion Slack dédié à la prochaine présentation de groupe. Ou alors tentez un arrière-plan coucher de soleil lors de votre prochaine réunion Teams. L'intéressé saura sans doute comprendre le message et vous invitera à prolonger la discussion dans un fil d'échange privé. Je me projette ici dans les différentes situations de télédrague de bureau. Alors que les outils de télétravail se sont développés depuis le Covid, comme Microsoft Teams ou Slack, des formes de télé-rencontres se sont elles aussi développées à travers les messageries d'entreprise et autres salles de réunions virtuelles. Toute une génération marquée par la grande désillusion des applications Tinder ou Bumble réenvisage la possibilité de trouver un bon match dans son environnement professionnel. Et comme les discussions de couloir ou de machine à café se font désormais aussi en distanciel via les réseaux de télétravail, ce sont eux qui ont pris le relais des applis de rencontre. Il faut le savoir, statistiquement, 44% des Français se disent insatisfaits par les dites applis, malgré les efforts de sécurisation et les nouvelles fonctionnalités proposées. Alors, les outils de télétravail deviennent des alliés pour rencontrer quelqu'un qui a un univers en commun. Mmh. Et c'est l'idée même d'une idylle entre collègues qui fait son retour.
Vous avez un message à nous faire passer là, Mathilde, à Nicolas, à Claude.
À vous, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Non, simplement des chiffres. Léa, la Société américaine des ressources humaines, la SHRM, a publié une étude très sérieuse. 33% des jeunes travailleurs de la génération Z se disent aujourd'hui ouverts à une romance au bureau, que je qualifierais de bureau-mance, quoi. Et hey, c'est plus que la génération Y, 15%, et que la génération X, 27%. On en revient donc au bon vieux ou à la bonne vieille collègue. Mais le numérique est passé par là et les rencontres ne se font plus totalement hors ligne. Donc ne misez pas tout sur la fête de fin d'année. Au-delà des rapprochements sur les plateformes de télétravail, c'est un réseau professionnel comme LinkedIn qui s'impose lui aussi comme un nouveau lieu de drague. D'après une étude menée cette fois par datingnews.com aux États-Unis, 54% des sondés entre 20 et 40 ans rencontrent leur partenaire via des plateformes de mise en relations professionnelles comme LinkedIn. Avec toutefois certaines limites, beaucoup de messages d'approche déplacés dénoncés par les utilisatrices. Oui, le changement de canal n'empêche pas la lourdeur.
Merci Mathilde et à tout à l'heure dans Nouvelle Tête. David Castello-Lopez, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La semaine dernière, à l'occasion du 50e anniversaire de la révolution des œillets, vous nous avez parlé de la dictature portugaise. Vous continuez cette semaine avec une anecdote personnelle inédite sur cette dictature. Une anecdote qui fait intervenir Alain Delon.
Oui. Oh. Oui. En 1967, Alain Delon, il a joué dans un film policier de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Le Samouraï. Il joue un tueur à gages solitaire, hyper compétent et surtout un tueur à gages qui a deux particularités. Un, il sourit zéro fois pendant le film et deux, il parle presque pas. Pour faire cette chronique, j'ai compté le nombre de mots prononcés par Alain Delon dans Le Samouraï. Je passe vraiment des week-ends délicieux. Il prononce 476 mots. 476 mots, c'est moins qu'une chronique de 2 minutes 30 de Mathieu Noël, mais étalée sur 1h45, c'est très peu, même s'il faut avouer que parmi ces 476 mots, il y a quand même des phrases pas mal, comme par exemple
« Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie ».
Voilà. Ce film, il est sorti au Portugal en septembre 1968. Et septembre 1968, pour le Portugal, c'était pas un moment anodin. Pourquoi ? Eh bien parce que le pays a appris ce mois-là que Salazar, le dictateur qui était au pouvoir depuis 40 ans, eh bien il était grave malade, en soins intensifs, à l'hôpital de la Croix-Rouge à Lisbonne. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute du samouraï ? Et je vous demanderai de vous calmer, parce que j'y arrive. À cette époque, mon papa et mon oncle, ils étaient distributeurs de films au Portugal. Et c'est eux qui distribuaient Le Samouraï. Or, mon papa, c'était un monsieur qui aurait vraiment préféré être poète dans la vie que distributeur de films. Et donc, c'était souvent lui qui rédigeait les publicités pour les films qui sortaient. Et là, il a brainstormé tout seul dans sa tête et il a eu deux idées. La première, c'est qu'il a traduit Le Samouraï de façon un petit peu freestyle par Solidão do Tigre, la solitude du tigre. La seconde, c'est qu'il a inventé un
lieu.
C'est, voilà. C'est du génie.
La seconde, c'est qu'il a inventé un slogan publicitaire qui était « Matar com honra, amar sem esperança, mourir só ». Tuer avec honneur, aimer sans espérance, mourir seul. Il a fait placarder ça en 4x3 dans tout Lisbonne, et puis il s'est barré en voyage. Sauf qu'un de ces 4x3 a été installé juste en face des fenêtres de l'hôpital de la Croix-Rouge, où il y avait Salazar. Et là, il faut imaginer un agent de la police politique portugaise, la PID, qui est dans l'hôpital un matin, à côté de Salazar mourant. Il regarde nonchalamment par la fenêtre, et il voit écrit en énorme « La solitude du tigre ». Tuer avec honneur, aimer sans espérance, mourir seul. Et donc évidemment, il se dit quoi ? Il se dit, quelle est la vermine communiste qui insulte notre chef suprême Salazar dans un moment si difficile ? Quelle indignité ! Arrêtez-moi les responsables tout de suite. Et immédiatement, la PID a envoyé des agents arrêter mon père, sauf qu'il n'était pas là. Et donc, ils ont arrêté mon oncle, qu'ils ont jeté en prison. Et là, mon oncle, il a dit... Non mais en fait, vous allez rire, on parlait de Alain Delon en fait. C'est marrant, non ? Non, c'est pas marrant, répondit Lapide, espèce de sale menteur communiste. Non mais la vie de ma mère, si, le samouraï, tout ça, il tue des gens, il parle pas beaucoup, Mathieu Noël. Mathieu qui ? Tu te fous de ma gueule ? Alors mon nom,